aussi annoncer qu'il y a un petit changement dans mon titre, en fait. Je l'avais transmis, mais je pense que c'est peut-être pas rendu une comité. Donc, c'est l'ALENA au prisme de la transnationalité et de la transculturalité. Regard sociopolitique sur le continentalisme nord-américain. Et je dois dire que j'avais invité Afef Benessaïe à se joindre à nous, mais pour des raisons personnelles, n'a pas pu le faire. Ce que je vais présenter, ça ne nous appartient pas à nous deux, mais c'est cependant inspiré d'un article qu'on a publié tous les deux l'année dernière. Et puis, je vais sauter l'introduction un peu longue que j'avais, justement par souci d'économie de temps. C'est une introduction à l'intérieur de laquelle je posais la question, justement, d'une célébration un peu ratée de l'ALENA, du manque d'enthousiasme politique, en renvoyant donc ça au caractère technocratique de l'ALENA, qui ne peut susciter dans son état actuel donc d'enthousiasme politique. Et qui est sensible notamment dans la structure que s'est donnée donc l'ALENA, la commission en fait du libre-échange avec ses trois sections nationales. Et je disais donc en conclusion de mon introduction qu'après tout, ces pratiques sont tout à fait conformes à la manière dont s'est construite l'Amérique du Nord à travers ces trois États-nations, où ce sont bel et bien toujours les élites seulement qui ont entamé la redéfinition des conditions d'existence politique des populations. Ne convient ces dernières à célébrer leur nouvelle identité que bien longtemps après son édification et souvent dans des conditions qui manquent, et ce jusqu'à aujourd'hui, de conviction sur leur unité nationale justement présumée. Qu'on nomme à présent technocratique le genre de gouverne qui régit la formation d'une entité nord-américaine sous l'égide de l'ALENA nous rappelle ainsi seulement la manière dont le politique s'est donné depuis sa fondation même dans les régimes coloniaux puis nationaux et maintenant dans sa figure internationale, servant, mais souvent mal, nos destins continentaux. C'est dans ce sens que je vais aborder ici la question d'une évaluation du caractère sociopolitique de l'ALENA en fonction d'une perspective transnationale et transculturelle, susceptible d'en faire percevoir, c'est du moins mon hypothèse, une consistance beaucoup plus importante que celle que l'on lui reconnaît habituellement. Je voudrais en effet souligner que les réalités nationales, c'est-à-dire les structures de l'État-nation, qui sont mises en cause par le continentalisme de l'ALENA, si elles apparaissent d'un côté comme l'obstacle principal ne nous permettant pas de jeter un regard pertinent sur la formation d'une entité politique continentale nord-américaine, apparaissent également d'un autre côté comme les conditions qui nous permettent de voir au contraire dans cette dernière leur propre prolongement explicite en termes de dynamique sociopolitique. En d'autres termes, c'est en percevant déjà le caractère politique technocratique et élitiste de la formation des réalités nationales et avant elles coloniales, des États-Unis, du Mexique et du Canada, que l'on peut considérer que le présent continentalisme en fournit des prolongements explicites, en soulevant alors toutefois un enjeu démocratique lié à la réalité sociopolitique plus large dans laquelle il s'inscrit. Mais pour accepter cette perspective, il faut considérer également comment la transnationalité et la transculturalité sont inhérentes à la définition du politique en Amérique du Nord, et cela en dépit du fait que ces réalités sont niées par les États-nations en cause, qui persistent à présenter les choses uniquement du point de vue de leur propre réalité nationale, unifiée et homogène. Je vais donc, dans ce qui suit, présenter la perspective générale sur laquelle je m'appuie, fondée sur la définition de la transnationalité et de la transculturalité, pour ensuite m'attarder au contexte colonial, national et, finalement, international de la formation de l'Amérique du Nord, avant de voir comment le caractère technocratique de l'ALENA met en relief, mais en creux, l'enjeu démocratique du continentalisme nord-américain. Si ce regard sociopolitique que je porte sur l'ALENA peut se comprendre ainsi à la lumière d'une problématique post-coloniale, il retient principalement de cette dernière un enjeu réformiste et non révolutionnaire par rapport aux possibilités présentes et à venir en fonction desquelles l'évolution du continentalisme peut être comprise. Donc, premier point, transnationalité et transculturalité, perspective sur les Amériques. La perspective qui sert de point de départ à mon analyse est celle qui lie la transnationalité et la transculturalité au processus de développement de toutes les Amériques. La transnationalité peut être définie tout simplement comme le résultat de la rencontre de deux ou plusieurs groupes nationaux qui fait en sorte d'engager des relations d'échange dont la symétrie n'est pas garantie, malgré la réciprocité de l'acte de reconnaissance qui lie les protagonistes. Dans une situation transnationale, en effet, les rapports de dominant à dominé sont une, mais ne sont qu'une, des modalités par lesquelles se structurent des échanges entre les groupes nationaux, comme dans le phénomène usuel de la prédominance de l'un sur l'autre, et donc de l'inégalité des échanges. Les autres modalités se détaillent soit en fonction de l'égalité dans les échanges, selon le phénomène d'une reconnaissance mutuelle de l'égalité des groupes, ou soit dans la possibilité ultime de l'éradication d'un des deux groupes en présence, et c'est ici le phénomène de la guerre ou même du génocide qui en illustre mieux la teneur. Dans tous ces cas de figure, cependant, il importe de saisir d'abord que la transnationalité engage toujours la reconnaissance réciproque de la présence de l'autre comme étant constitutive de la définition de soi, puisque c'est en fonction de cette réciprocité que la symétrie ou l'asymétrie des rapports se constitue, et ensuite que le résultat de ces rapports constitue bel et bien un point de reconnaissance qui n'apparaissait pas avant que ne s'engagent des échanges nationaux au sein des rapports transnationaux. L'exemple socio-historique qui sert peut-être le mieux à illustrer cela est la naissance, au premier tiers du 19e siècle, de l'identité canadienne-française, qui s'établit sur la base de la reconnaissance d'une nouvelle identité canadienne-anglaise, résultant des suites de la conquête britannique sur le groupe national francophone dont l'identité antérieure n'était que canadienne ou même française. La même chose pourrait être dite, mais avec évidemment la prise en compte de toutes sortes de différences, de niveau institutionnel notamment, de la constitution de l'identité chicana, résultant de la guerre entre les États-Unis et le Mexique au milieu du 19e siècle. Mais l'exemple s'était déjà produit dans la rencontre des cultures européennes et autochtones, qui a donné naissance à ces dernières, comme culture autochtone, comme fondatrice des Amériques. La transculturalité, quant à elle, peut être définie de manière coextensive à la transnationalité comme le résultat des échanges entre des groupes culturels distincts, formant éventuellement une autre culture, une culture autre, c'est-à-dire elle aussi distincte des groupes de départ. La transculturalité constitue donc un phénomène issu de la transculturation, processus identifié par l'anthropologue cubain Fernando Ortiz dans son ouvrage pionnier de 1940, Contrapunto cubano, el tabaco y el azúcar, dans lequel il définissait la culture cubaine comme étant issue du mélange entre les cultures autochtones, Siboney et Taino, espagnoles et africaines. L'ouvrage d'Ortiz, dont je crois qu'il devrait figurer comme ouvrage phare pour la compréhension des phénomènes culturels issus non seulement de Cuba, mais bien de toutes les Amériques, montre bien sa spécificité et sa clairvoyance par rapport aux autres façons par lesquelles l'anthropologie de son époque avait thématisé la question des rencontres culturelles, principalement selon la perspective malinowskienne, par exemple, de l'acculturation, qui définit simplement le devoir d'adaptation de la culture dominée à la culture dominante. En dépit de l'asymétrie présente dans les rapports de domination d'une culture sur une autre, il reste donc que pour Ortiz, leur contact fait en sorte de produire des phénomènes culturels d'échange réciproque qui, dans le long terme, situent des inventions culturelles hybrides n'ayant pas appartenu comme telles ni à une culture ni à l'autre. La transculturation étant toujours à l'œuvre partout, ce n'est que de manière relativement temporaire que l'on peut parler d'identité culturelle dans les termes parfaitement fixes et stabilisés. On devrait en fait considérer, théoriquement si l'on veut, la transculturalité comme étant ce processus de création et de recréation culturelle dont tout groupe ou toute culture est l'objet. Bien entendu, les formes de reconnaissance de l'identité culturelle que l'on admet au sein de la société contemporaine ne se rendent pas tout à fait à cette définition théorique, bien qu'elles ouvrent la porte à des considérations qui montrent la relative instabilité dans la définition des cultures nationales. Les politiques issues du multiculturalisme ou encore de l'interculturalisme montrent bien à cet égard comment, d'un côté, l'idée des cultures nationales complètement unifiées et homogènes est aujourd'hui remise en cause et comment, de l'autre côté, se jouent des rapports de reconnaissance réciproque d'un groupe culturel sur un autre, et il reste seulement à souligner dans ce contexte comment des politiques du transculturalisme, qui insisteraient sur l'hybridité et la transformation des cultures nationales dans la constitution des cultures autres ou distinctes, restent toujours difficiles à admettre pratiquement. C'est ce que montre, entre autres, avec une acuité percutante, l'édification des cultures des Amériques dans leur contexte colonial et national. Deuxième point, donc, l'édification des contextes politiques colonial et national à l'aune de l'élitisme. L'édification des cultures coloniales dans toutes les Amériques s'est faite, comme on le sait, dans la foulée de l'expansion européenne ayant comme résultat direct une reconnaissance radicalement asymétrique à l'endroit des cultures autochtones. Les guerres sanglantes, et peut-être aussi le génocide, la question demeure ouverte, ont fait en sorte de proposer des formes d'identification culturelle hétérotopiques à la Nouvelle-Espagne, à la Nouvelle-Angleterre et à la Nouvelle-France, signifiant le refoulement des identités culturelles autochtones, puis africaines. C'est en quelque sorte sur cette définition en porte-à-faux avec la réalité socio-historique des processus transculturels et transnationaux, pourtant à l'œuvre dans ces contextes, que toute l'expérience coloniale s'est comprise et la perspective théorique postcoloniale représente aujourd'hui pour nous l'occasion de saisir ces manquements et errements d'une autre époque lorsqu'on s'y penche, avec parfois l'idée de redresser les torts subis dans ces divers contextes dans un souci de justice historique. Les élites coloniales, en pensant édifier la réplique de leurs métropoles respectives dans les Amériques, ont ainsi offert un premier modèle de définition technocratique, même si l'usage peut paraître ici anachronique, à la gouverne politique. On pourrait dire cependant, et ici la chose prend un autre relief, que ce modèle a été reproduit assez fortement lors de l'édification des cultures nationales à partir de la fin du 18e et du premier tiers du 19e siècle. S'il y a quelque chose de frappant en effet avec l'invention des cultures nationales dans les Amériques pendant cette période, c'est d'une part qu'elles ont reconduit une bonne partie des iniquités dans la reconnaissance des cultures mises en cause et qu'elles l'ont fait sur la base d'une gouverne politique qui, bien qu'un peu plus ouverte que celle présidant à l'époque coloniale précédente, n'en demeurait pas moins élitiste et relativement étroite dans ses réalisations, en mettant les nouvelles aristocraties nationales à l'avant-plan de la définition des identités culturelles et en reléguant les minorités culturelles dans les marges. Les traces du colonialisme européen sont ainsi restées très sensibles et visibles même dans la constitution des identités culturelles nationales, comme cela apparaît avec les questions autochtones et africaines. Et si l'effort d'homogénéisation culturelle présent parmi ces élites nationales s'est poursuivi pendant tous les 19e et 20e siècles, et au travers de nouveaux phénomènes migratoires liés à l'industrialisation et l'urbanisation, dans la redéfinition des frontières géopolitiques, il faut voir que les identités culturelles nationales qui en sont issues portent la marque des réussites, de même que des ratés de ce processus d'identification mené avec la conviction d'un établissement de repères fixes et stables au sein des institutions nationales respectives au Mexique, aux États-Unis et au Canada, dans leur naissance et leur consolidation. Il y a une remarquable, évidemment, synchronie dans ces processus-là d'un contexte national à l'autre. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les dynamiques transnationales et transculturelles n'étaient pas à l'œuvre dans ces contextes, mais plutôt que leur présence était alors également et complètement refoulée au profit de l'affirmation des cultures nationales, toujours sur la base d'une unification et d'une homogénéisation dont toutes sortes de phénomènes trahissaient pourtant la consistance présumée. La très grande proximité entre le Canada et les États-Unis pendant toute cette période et dès les suites de la guerre de 1812, sous l'égide d'un ordre impérial anglo-états-unien, montrait ainsi déjà le dépassement supranational de certaines limites culturelles nationales, alors que d'autres phénomènes infranationaux, tels le nationalisme canadien-français puis québécois, l'afro-américanisme de la NAACP, la révolte des Métis dans les prairies ou la montée de l'indigénisme au Mexique, j'en passe évidemment, laisse avoir des lézards dans l'édifice qu'on voulait apparemment bien lisse des cultures nationales. En dépit donc des dynamiques sociopolitiques transnationales et transculturelles à l'œuvre, le projet politique initial des élites nationales a fini par s'imposer, non sans que transparaisse une plus grande fluidité que prévu dans la manière dont les cultures nationales finissent par apparaître dans l'évidence qu'on veut bien leur reconnaître aujourd'hui. À tous ces niveaux, supranational, national et infranational, sont néanmoins présentes les traces de la transnationalité et de la transculturalité, dont les présentes politiques nationales à tendance multiculturaliste et interculturaliste précisent les indécisions pour des élites nationales déjà engagées, néanmoins, elles, dans la redéfinition d'un projet continental dont l'ALENA donne une certaine configuration. C'est à la description de cette dynamique que je m'attends maintenant brièvement, en indiquant qu'elle apparaît donc autant comme prolongement des projets nationaux dans leur forme élitaire et technocratique, qu'elle indique simultanément et ouvertement le dépassement des problématiques nationales, sans toutefois vouloir l'admettre ouvertement. Troisième et dernier point, donc, le caractère technocratique de l'ALENA et l'enjeu démocratique du continentalisme. Ce n'est en effet que sur l'arrière-plan de ces considérations à l'égard de la formation des cultures nationales dans la perspective d'une gouverne politique élitiste et technocratique, que peut se définir et se comprendre le continentalisme présent de l'ALENA. Ce continentalisme nord-américain procède selon une logique qui retient de ces contextes coloniales et nationales les limites mêmes qui sont les leurs dans le refoulement des dynamiques sociopolitiques transnationales et transculturelles qu'il met pourtant en scène. Et la raison en est justement la poursuite d'un projet élitaire qui se réfléchit dans la forme technocratique que présente le secrétariat de l'ALENA et ses trois commissions nationales. Car il s'agit bien dans ce contexte de fixer les termes d'une nouvelle réalité continentale nord-américaine, structurant un marché et des pratiques commerciales qui touchent toutes les populations des Amériques, à un degré ou un autre de la reconnaissance que l'on veut bien leur accorder dans ce contexte, dont on voit qu'elle ne peut et surtout ne veut envisager officiellement qu'une figure nationale. Mais les restrictions des acteurs qui sont conviés à fixer les termes de la mise en place et de l'évolution de ce projet montrer éloquemment les restrictions politiques dont on entoure le projet de l'ALENA, alors que ce ne sont pourtant pas de petits enjeux nationaux, infranationaux et supranationaux qui sont en cause, et cela même lorsque ces enjeux dépassent le caractère strictement économique que l'on veut bien y accorder publiquement, que l'on veut bien accorder publiquement à cet accord de libre-échange, comme en témoigne par exemple l'entente partenariale sur la sécurité et la prospérité, les corridors d'échange que l'on planifie d'un bout à l'autre du territoire, et même les super autoroutes qu'on prévoit développer dans ce cadre, quand ce n'est pas évidemment la problématique environnementale. De tels projets structurant la coopération politique à un niveau, disons, international ou supranational, encore et toujours technocratique, où la mise en place d'infrastructures spécifiques de transport et de communication qui brisent ou contredisent explicitement les frontières nationales dans une perspective continentale, sont tout à fait à l'image de la configuration de l'Amérique du Nord depuis ses origines dans les contextes coloniaux et nationaux et de la reconfiguration que l'on y effectue présentement. Ces mises en place rappellent en effet le projet du Grand Tronc, fondateur de l'unité canadienne, ou encore l'ouverture vers l'ouest des chemins états-uniens dans la configuration de nouveaux territoires appelés à former éventuellement ces nouvelles identités géopolitiques au 19e siècle, espérant par là et après coup y définir et y contraindre des cultures nationales « from coast to coast ». Bien sûr, le passage graduel aux démocraties de masse qui ont laissé derrière elles les restrictions politiques les plus criantes des démocraties modernes bourgeoises et de la période coloniale précédente, ont pu faire apparaître ces dynamiques politiques élitistes et technocratiques comme relevant d'un projet culturel national large, généreux et inclusif, mais elles n'ont permis justement aux populations concernées de ne se prononcer que bien après que ces initiatives aient été jetées par les élites sur un mode technocratique, dont on sait par ailleurs, bien entendu, qu'il recouvre toujours des intérêts plus particuliers dans les faveurs qu'il distribue à travers sa gouverne politique. Que l'ALENA apparaisse aujourd'hui pareillement truffée d'intérêts particuliers, furent-ils corporatifs, n'empêche nullement de voir à l'œuvre une mécanique politique assez bien rodée sur le plan de ses ancrages politiques nationaux pour qu'elle puisse être reconduite sans trop de chambardement dans son imagination et son implantation sur un plan, cette fois, continental. Mais c'est alors justement là qu'elle fait apparaître ses travers les plus grossiers et qu'elle découvre avec le plus d'acuité l'enjeu démocratique qu'elle tente si bien d'escamoter qu'il ne peut se dévoiler qu'en creux dans le sillage des nouveaux tracés de notre devenir continental. Qu'un effort élargi et approfondi d'éducation des populations quant à leur avenir continental prochain nourrit des débats que doivent susciter toutes les initiatives mettant ces mêmes populations devant leurs conditions de vie actuelles et à venir, associées aux conditions institutionnelles inclusives marquant véritablement la nature du processus en cause, en soulignant ses caractères transnationaux et transculturels, manque toujours à l'avancée sans cesse plus prononcée de l'ALENA. Voilà qui relève toute la profondeur des défis qui nous attendent. À la gouverne technocratique et au partage élitiste des secrets qui définissent en ce moment même notre avenir commun, l'enjeu démocratique laisse entrevoir qu'une participation élargie à la capacité de réflexion et d'action autonome des populations dans ce contexte reste en attente de décisions politiques toujours prises dans l'antre des officines gouvernementales où est requise non pas seulement la privauté des échanges sous le couvert international, mais où est même exigée la confidentialité des discussions parmi les technocrates appelés à se prononcer sur les aspects les plus épineux de la reconfiguration continentale en cours. Je conclus donc brièvement, très brièvement, sur ces questions. Notre devenir nord-américain qui prend forme présentement à travers l'ALENA ne sera ni entièrement et seulement états-unien, ni mexicain, ni canadien ou québécois, mais quelque chose d'autre dont nous ne pouvons présentement qu'envisager la teneur. Si l'on voulait entrevoir réellement sa consistance transnationale et transculturelle, il faudrait considérer ce devenir nord-américain sous l'angle d'un nouvel ensemble hybride formé par le mélange des cultures nationales que l'on connaît présentement. Mais la forme de ce nouveau mélange ne pourra, simultanément, que correspondre au projet sociopolitique qui en permettra l'essor. Aussi, la présente gouverne technocratique ne peut qu'en appauvrir la teneur, si tant est que ce sont l'ensemble des populations du continent qui sont visées par son projet. Dans la reconfiguration des sociétés contemporaines qui voient des formes d'identification régionale, continentale et sous-continentale émerger, à l'image de l'Union européenne ou de l'UNASUR, il reste à l'ALENA à envisager ce qu'un devenir continental nord-américain pourrait déterminer sur le plan d'un contenu sociopolitique démocratique faisant véritablement place à la transnationalité et à la transculturalité. Merci.